Bienvenue sur les ondes de Radio Galère. Nous sommes lundi 5 juin, c'est l'été. Le soleil tarde à arriver, mais on l'attend beaucoup. Alors ce soir, nous avons un invité qui s'appelle Jérémy Gravaya, qui est en résidence au Polygone Étoilé, une résidence de montage sur son film en cours qui s'appelle Atlas. Et nous allons parler avec lui de l'histoire de ce film, sa fabrication. Et on va s'intéresser aussi à la question qui nous intéresse tout le temps, qui est importante pour nous, la question du cinéma et la question du politique. Même si dans le cinéma, il y a du politique, des fois dans le politique, il n'y a pas du cinéma. Et ce qu'on entend des fois par politique, c'est aussi la question du militantisme. Voilà pour commencer. Fab est avec nous, David n'est pas là. Eh bien, Fab, je te laisse la parole pour commencer.
Ça y est, on entend. Merci Lolo pour cette petite introduction. Bah ouais, on est super content d'être avec Jérémy Gravaya ce soir.
Bonsoir.
Jérémy Gravaya, qu'on connaît bien, Lolo et moi, parce que bah voilà, c'est des petites histoires d'amitié aussi qui se font dans la fabrication des films. Et donc effectivement, t'es en ce moment à Marseille pour une résidence de montage sur ton film en cours. Et c'est ça qui nous préoccupe dans Quête de cinéma, c'est nous interroger sur la manière dont les films se construisent, comment, avec quels moyens. Et en l'occurrence, on va pouvoir commencer. On va pouvoir commencer avec ça parce qu'on est toujours dans des histoires d'économie, de trouver les outils, les personnes ressources pour arriver à aller jusqu'au bout de nos films, qui sont en général des projets au long cours. Donc peut-être qu'on peut commencer par là. Je te laisse la parole.
Ouais, bah merci. Donc par quoi commencer?
L'origine, le départ, le désir.
Ben, en tout cas, là actuellement effectivement, ce film est en début de montage depuis assez peu de temps en fait. Hein. Réellement depuis une quinzaine de jours, et donc c'est assez drôle de venir en parler alors que les choses sont encore en constitution. Et qu'en même temps, ça a lieu à Marseille, pas très loin d'ici, pas très loin de cette émission, pas très loin de vous, et que tout ça, c'est assez lié. Et que voilà, c'est un projet dont l'idée, les germes remontent à assez longtemps, presque 5 ans. Et au départ, en tout cas, il y avait une envie, c'était de... Suite à un film précédent que j'avais fait qui s'appelait Les Hommes Debout, c'était d'essayer de s'interroger, de se renseigner sur les conditions de vie en fait, des travailleurs immigrés dans les années 60, en France, en banlieue, de façon très large au départ, puisque ce film que j'avais fait avant, et donc les films mettent beaucoup de temps à se faire, ce film date de 2010 maintenant, et la première projection d'ailleurs de ce film avait été à Marseille. Et ce film-là, à l'époque, c'était sur des luttes liées aux conditions de travail. Et là, ce qui m'intéressait, c'était plutôt les conditions de logement de ces personnes-là. Et une suite de hasards et d'amitiés ont fait que j'ai pu trouver un havre d'accueil assez rare à l'Abominable, qui est un collectif de cinéma basé à La Courneuve, en Seine-Saint-Denis, en région parisienne. Et qui rassemble des gens qui travaillent encore des films en pellicule, qui surtout mettent à disposition donc de cinéastes des outils qui permettent de continuer à faire des films en pellicule aujourd'hui. Ce qui n'est pas devenu simple avec le temps, mais qui est très agréable et très beau à pouvoir continuer à faire. Et ce film, je savais notamment que je le ferais en pellicule, donc c'était un des liens. Mais surtout, c'était une époque où le labo s'installait à La Courneuve, donc au milieu de la cité des 4000, qui est une très grande, très ancienne et très emblématique cité de logement, notamment des immigrés, en France. Et on est arrivé, nous, dans cette affaire-là, à un moment donné où bah, une partie de ces cités était en démolition depuis déjà pas mal d'années. Et où on voyait donc cette banlieue bah, se transformer, changer. Et c'était un moment assez... C'est un moment assez intéressant en fait, pour s'interroger à la fois sur les racines de ce territoire-là et des trajectoires de vie qui se sont déroulées là, de trajectoires de logement aussi, de précarité et donc de lutte. Donc à la fois sur l'histoire et sur le présent. Qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment dans ces coins-là qui sont finalement très proches de Paris, donc où le Grand Paris et d'autres logiques... avance à grands pas, qui font que bah, la ville se transforme, la banlieue se transforme, l'habitat se transforme, que les gens qui ont vécu là pendant des dizaines d'années vont rester là ou pas, mais qu'en tout cas le type de logement social change, que les grands ensembles, cette réalité-là, cette utopie-là, on pourrait dire au départ, a été comme sévèrement mise à mal au fur et à mesure des années. Et aujourd'hui, voilà, c'est d'autres types d'habitats. Et en tout cas, en arrivant dans ce quartier, on a pris le temps, donc avec un ami qui s'appelle Yann Chevalier, que j'ai découvert, que j'ai rencontré au moment du projet, et on travaille ensemble depuis. Tous les deux, on est partis au hasard, comme ça, un peu de but en blanc, sur un territoire qu'on ne connaissait pas, par des amis d'amis, par des contacts, par des associations locales, à la rencontre de gens qui avaient connu la vie en bidonville, à une époque où cette banlieue était plutôt, disons, une campagne, un petit village, avec des usines, des industries. Et à une époque où, disons, juste après-guerre, énormément d'immigrés espagnols, portugais, yougoslaves, maghrébins, sont arrivés là pour travailler. Et ils ont trouvé du travail, bien sûr, mais pas forcément de logement. Et la contradiction énorme, c'est que finalement, beaucoup de ces gens-là étaient venus là pour construire les logements des cités. C'est beaucoup de ces gens-là qui ont construit tous ces grands ensembles. Mais à cette époque-là, ils vivaient dans des bidonvilles. Ils n'avaient pas accès à des logements normaux. Et ça a pu durer des années, des dizaines d'années. Et donc voilà, on a essayé de retrouver un certain nombre de gens comme ça qui avaient grandi dans cette réalité-là et qui, petit à petit, avec le temps et au fil des générations, avaient réussi, disons, à vivre à peu près comme tout le monde, quoi. Et voilà, et donc on a passé un an et demi à récolter des témoignages de tout un tas de personnes différentes, des archives, des documents, des photos qui montraient voilà, des choses très simples parfois, les visages de ces gens, des expressions, des présences. Qu'est-ce que c'était que ce type de logement ? Des photos assez rares qu'on a pu retrouver. Et aussi beaucoup de documents historiques qui témoignaient d'une chose assez intéressante, qui peut paraître un peu aride, mais qui en fait est... vraiment révélatrice si on veut bien comprendre comment ça s'est passé à l'époque, qui étaient des documents archivés notamment à la mairie de la Courneuve ou dans d'autres mairies de Seine-Saint-Denis ou au département, qui sont des échanges de courriers en fait entre les habitants, la police, les pouvoirs politiques, les militants, etc. Et qui permettent de retracer en fait comment les bidonvilles ont fini par disparaître entre guillemets au bout de plus de 20 ans à cette époque-là, et comment les gens qui y vivaient ont réussi à vivre mieux. Et voilà, et dans quel rapport de pouvoir, de lutte, de... Et au bout d'un an et demi de travail, on est cinéaste, mais pendant tout ce temps-là, on n'a pas de caméra en fait, on ne fait pas d'image, on enregistrait juste du son et on cherchait ces documents. Et au bout d'un an et demi, on s'est dit, tiens, il y a tellement de choses là... C'était une matière qui était censée être privée, quoi, pour qu'on commence à travailler à ce film. Et on s'est dit, on va le partager. Donc on n'avait jamais fait ça avant. On a appris à faire un livre, quoi. un grand journal d'une centaine de pages, et qu'on a mis en page, qu'on a fait imprimer, et qu'on a distribué gratuitement partout dans la ville. Et en vis-à-vis de cette histoire du passé, la chose qui nous intéressait vraiment, c'était de le mettre en écho direct avec des choses qui se passaient là maintenant. Et étonnamment, dans des lieux très très proches des endroits où il y avait eu des bidonvilles dans les années 60, il y avait à nouveau des bidonvilles depuis un certain nombre d'années à la Courneuve. Et c'est, aujourd'hui, c'est essentiellement des familles roumaines qui vivent là. Pas forcément des Roms d'ailleurs, par rapport à ce qu'on, au terme qu'on emploie, disons, globalement. Et il y a essentiellement un bidonville, qui ensuite s'est appelé bidonville du Samaritain à l'occasion d'une lutte, sur lequel on a passé du temps et où on a fait des rencontres, où on a pu enregistrer des témoignages. Et ces témoignages, donc, ont rejoint le journal, ce journal. Et au moment où on a publié le journal, on l'a distribué partout en ville, l'utilité de ce livre a un peu bougé, parce qu'en fait, au départ, c'était essentiellement un projet mémoriel, disons. Mais il s'est trouvé que ce bidonville était, donc le bidonville des Roumains, était menacé d'expulsion. Et du coup, on espérait un peu que cet outil, enfin ce livre, du fait de le diffuser comme ça, très librement, gratuitement, on en a posé des piles dans les cafés, dans les maisons de quartier, dans les associations, on a distribué à la sortie du RER. Et on voulait que ça serve un peu de reconnexion, comme plein d'autres choses, entre cette mémoire et ce présent, quoi. Parce qu'on constatait qu'il y avait beaucoup de gens de cette ville qui avaient vécu ces histoires de bidonville. Parfois, on n'avait jamais parlé. Donc, en tout cas, c'est des choses dans les familles qui restaient très, très fortes, quoi. Et qu'en même temps, il y avait ces choses-là qui se passaient là, maintenant, avec à nouveau des familles qui vivaient dans des baraques, et qu'il y avait très peu de rencontres, très peu de dialogues, très peu de compréhension, très peu de solidarité. Et voilà, c'était un peu notre espoir au moment où on a distribué ce livre. Alors bon, voilà, ça reste un livre, donc le pouvoir d'un livre, c'est comme le pouvoir d'un film. On ne sait jamais trop qu'est-ce que ça peut faire. Mais voilà, en tout cas...
Vous avez eu des retours sur ce premier objet, ce premier livre que vous avez distribué ?
Ouais, on a eu étonnamment... en fait, c'était vraiment un sacré boulot, quoi, de jouer le jeu, en fait, de le distribuer comme ça. De vraiment faire
l'effort,
porte
à porte, presque.
Voilà, que vraiment il puisse être accessible à tous, gratuitement. C'était un journal aussi, donc nous, ça nous tenait à cœur que le support reste quelque chose d'assez quotidien, d'assez fragile. Le journal, c'est quand même quelque chose de... Je veux dire, même... je le dis, c'est pas anodin, mais même les analphabètes feuillettent le journal accoudés au comptoir du bistrot où ils boivent leur petit café, quoi. Et ça aurait été un bouquin, ça serait devenu tout de suite un objet un peu...
Précieux.
Précieux, savant, ouais. Impressionnant. Et c'était pas du tout le but, en fait. Hein. Nous, dans ce livre, il y a que, en fait, des témoignages oraux. C'est vraiment la langue, une langue orale, c'est des gens qui racontent leur vie, quoi. C'est un truc très simple que tout le monde peut lire, en fait. Et ouais, on a eu des assez beaux échos avec le temps, et de plein de milieux différents, c'est ça qui était assez chouette, quoi. D'habitants du quartier, de gens qui avaient connu des réalités très différentes, de gens qui avaient connu les bidonvilles et qui étaient assez touchés, parfois même très touchés parce qu'ils reconnaissaient un cousin, un oncle qu'ils n'avaient pas vu depuis des années sur une des photos qui datait d'il y a 40 ans. Et en même temps, aussi dans d'autres milieux, quoi, c'est-à-dire militants ou même des milieux universitaires ou de chercheurs, des gens ont été assez touchés par cet objet. Mais voilà, en fait, ça, c'était une étape un peu préalable, disons. Et une fois qu'on a fini toute cette distribution, c'est là où on s'est mis un peu à écrire le film, en fait, à partir de toute cette matière. Mmh. Et l'idée, c'était d'écrire comme ça pendant encore quelques mois, et puis de tourner des choses avec tous ces gens qu'on avait rencontrés, pour brasser cette histoire des bidonvilles, voilà. Au fur et à mesure du siècle, quoi. Mais les choses, on en a un peu décidé autrement. Et en fait, effectivement, il s'est avéré que ce bidonville où il y avait les familles roumaines, qu'on commençait à connaître un peu, a été expulsé. Et je me souviens, à ce moment-là, moi j'étais en train d'écrire le scénario du film. Et il y avait un peu une tension quoi, entre écrire à la campagne et d'un autre côté, les gens qui appelaient en disant mais bah voilà, en fait, on est expulsé, là, on est à la rue, on sait pas trop quoi faire. On va aller peut-être devant la mairie, y a peut-être l'idée d'installer un campement devant la mairie, Médecins du Monde va donner des tentes.
C'est les gens avec qui tu étais en contact, qui pendant que toi tu t'étais un peu coupé pour écrire, t'appelaient régulièrement pour te raconter ce qui était en train de se passer au présent. Quoi.
Voilà, et du coup il y avait cette tension de faire un film, donc de devoir écrire, ou alors d'être là, et très vite la solution était simple, était évidente, c'est de laisser tomber l'écriture et d'aller là-bas, de retourner là-bas. Et voilà, et à partir du moment où on est allé là-bas, je me souviens que quasiment, je pense le premier soir, on a commencé à dormir sur place avec les gens, dans les tentes, et quasiment, je pense le lendemain, enfin, on a senti que ça allait, voilà, qu'il y avait un truc qui allait durer et que le cinéma c'était pas encore pour tout de suite, quoi.
Parce que toi, quand tu y vas, tu t'attends pas à ce que ça dure. Quand tu te dis bah tiens, je mets de côté le scénario là, parce qu'il y a une sorte d'urgence qui est prioritaire, tu y vas mais sans savoir trop là où tu vas te mettre réellement, quoi.
Bah ouais, on sait jamais. Bien sûr, on n'est pas des doux rêveurs non plus, mais oui, on peut imaginer, on aurait pu imaginer qu'un campement devant la mairie, qu'avec des négociations avec les pouvoirs locaux ou moins locaux, politiques, il y a des solutions qui soient trouvées assez rapidement pour loger les gens. Et voilà, il y avait tout un collectif donc, qui s'appelle Collectif des Samaritains, qui était constitué à la fois d'habitants du bidonville et de soutiens d'horizons très divers. Et voilà, il y avait du monde, il y avait quand même des capacités d'organisation, et oui, on aurait pu songer que des choses allaient pouvoir se faire, quoi. Mais voilà, en fait, on est resté plus, je sais pas, deux mois et quelques sous les tentes, et au début plutôt à gérer, à essayer d'être là pour tenir le quotidien, quoi. Donc à être dépassé par la gestion du quotidien, en fait.
Et donc là, ça, comme tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que tu écris un scénario, tu es dans ton travail de cinéaste, et à un moment, donc tu laisses tomber ça, et finalement, tu prends une autre place, alors.
Bah, ouais, en même temps, la place de cinéaste, on l'avait encore jamais vraiment prise, puisqu'on avait plutôt fait ce livre.
Oui, vous aviez fait un journal, ouais.
Et donc, on avait... Voilà, c'est une histoire qui a pris, effectivement, du coup... en gros, on a pris... 3 ans et quelques, peut-être presque 4, à prendre la caméra. Mais en même temps, je sais que, pour avoir fait d'autres films avant, je pense que c'est quelque chose que je désirais, quoi. D'arriver quelque part parce qu'on a une intuition que quelque chose nous intéresse, qu'on a envie de se documenter, de comprendre, d'échanger, de rencontrer. Mais de se dire que c'est ce qu'on va vivre qui va tracer le film. Et pas l'inverse, bon, ça paraît banal dit comme ça, mais
ça m'amène justement, Jérémy, à te poser la question de, sans revenir à l'histoire des Hommes Debout, ton film précédent, mais qu'est-ce qui à un moment donné t'engage sur cette préoccupation des immigrés, justement, enfin de cette question là et qu'est-ce qui fait lien avec toi, en fait, qu'est-ce qui fait que tu te retrouves à cet endroit-là du politique, en fait?
Bah, y a pas de... Personnellement, c'est pas du tout lié à une biographie, enfin, une histoire personnelle ou quoi que ce soit. Après, voilà, c'est... Je sais plus exactement combien de petits films j'ai fait avant Les Hommes Debout. Donc, en 2010, c'était le premier long-métrage que j'ai fait. Avant, j'ai fait des courts-métrages. Mais en tout cas, depuis le début... C'est des films qui effectivement traitent des migrations, de l'exil, des réfugiés. Et voilà, je saurais pas du coup vraiment dire pourquoi, mais voilà, il y a eu un petit court-métrage que j'avais fait avec autour d'histoires de réfugiés du Kosovo, et puis c'était une fiction, ça. Après, je suis parti avec un ami très cher à l'époque, Édouard Beau, qui est photographe, à Sangatte. Et donc avant les histoires des jungles, etc. À l'époque où, donc à côté de Calais, il y avait un camp d'accueil de la Croix-Rouge, dans un grand hangar qui servait avant de construction à l'Eurotunnel. Et voilà, on avait passé un certain nombre de mois là-bas, avec les gens, à filmer des petites choses et à faire un petit film de tout ça. Et puis voilà, après dans divers endroits, toujours autour de ces problématiques. Mais c'est vrai que, en tout cas, peut-être que ce que je peux dire, c'est qu'il y a... J'ai toujours eu une espèce de tension entre le désir de filmer sur le moment des choses telles qu'elles sont et une envie de mise en scène, disons. De mise en scène, d'écriture. Et déjà, Les Hommes Debout mélangeaient un peu tout ça. C'est des tournages à la fois très improvisés et parfois très mis en scène. Ça mélange complètement en fait la fiction, le documentaire, des personnages fictionnels, des personnages réels, des archives, des supports aussi, parce que c'est des films qui sont tournés autant en pellicule qu'en vidéo. Et pour le projet d'Atlas là, dont on parle autour des bidonvilles, bah à nouveau c'était vraiment ça quoi. C'est un film très documentaire, mais c'est très mis en scène. Et pareil, ça a été bricolé assez librement, un peu à l'instinct, avec moi, Yann, Guillaume qui faisait l'image, Gilles, un autre ami qui faisait le son, Raluca qui faisait la traduction, et les amis roumains. Et on passait sans cesse du documentaire à un peu de fiction. Mais la fiction, c'est-à-dire une remise en scène finalement de choses qu'on avait vécues, quoi. Parce qu'en gros, donc ce campement-là, ça, c'était en 2015, ça a duré en août, à partir d'août 2015. Ça a duré 2-3 mois. Et suite à ça, comme avec le collectif, etc., on a réussi à faire levier sur pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à trouver de solution
officielle
pour loger les familles, qui étaient donc dans des tentes. On commençait à être au mois de décembre, novembre... Il faisait froid, c'était le début de la trêve hivernale, il y avait beaucoup d'enfants. Et du coup, bah, de fil en aiguille, on s'est retrouvés à les accompagner dans des recherches de maisons vides. En se disant que voilà, ouvrir des maisons, des squats, pour dans chaque maison, 2, 3, 4 familles, c'était un peu la seule solution qui nous paraissait possible. À tous, à eux, à nous. Et voilà, et du coup, ça a été à nouveau une histoire très longue où il y avait quand même. Voilà, hein, je sais, j'ai plus du tout les chiffres en tête là, mais je sais pas, ça devait pas loin d'être une trentaine, quarantaine de familles, donc ça faisait beaucoup de monde qui était dehors. Et donc il y a eu toute une période où, voilà, quoi, effectivement, on a cherché des maisons, la nuit, tourné dans la banlieue. Et commencer à investir des petits pavillons.
Mais à ce moment-là, donc, quand tu commences à te mettre à l'endroit de dire bah, tiens, là, c'est à cet endroit-là qu'on doit être, on doit se mettre à l'endroit de soutenir, d'ouvrir des squats, de voir qu'est-ce qu'on peut faire, sachant que l'endroit du politique ne fera rien. À quel moment ou comment se passe le fait de se dire bah, tiens, là, tu pourrais dire bah, tiens, là, je pourrais filmer. Et puis finalement, tu dis, je ne vais pas filmer. Ou qu'est-ce qui se passe, comment ça se réfléchit, même si j'imagine que ça ne se réfléchit pas forcément, même là, on est dans de l'après-coup. C'est parce que déjà, il y avait déjà pour toi, au moment où tu te mets à dire avec tes amis, là, qui sont les personnes qui travailleront avec toi sur le film, tu sais déjà que tu vas militer à cet endroit-là et puis après tu feras le film. C'est comme une évidence ou quelque chose qui se met en résistance au dialogue
Bah c'est pas vraiment en fait sur le tout le temps que tout ça va prendre, c'est pas du tout clair au départ. Mais ce qui était clair très vite, par contre, c'est qu'effectivement on a très vite senti qu'on n'allait pas filmer tout ça, quoi. C'est-à-dire que ce soit les familles au campement, dans les tentes, ou nos zonages nocturnes pour essayer d'ouvrir des lieux, etc. Il y a quand même une question. Enfin, voilà, il y a une question de légalité dans tout ça. Il y a une tension. Il y a un moment où, bah, déjà, on comptait nos forces, on comptait le nombre qu'on était. ça a été voilà, des jours et des jours et des jours où on faisait plus que ça. Et effectivement, moi et Yann, je crois, on se sentait pas du tout de mélanger cette réalité-là. C'est une réalité, c'est une occupation, c'est des gestes, c'est une présence, c'est tout, au fait d'avoir une caméra, quoi. C'est-à-dire d'aller faire un aller-retour.
Mais
en
du
bagnole,
coup, de plus être présent à l'urgence de ce qui peut se faire à un moment donné, peut-être.
Voilà, je sais pas, que ce soit aller chercher des packs d'eau au supermarché, essayer de récolter 2 francs 6 sous, aller chercher la chorba dans une asso pour servir la soupe chaude le soir. Aller ramasser des couches pour les bébés, etc. Ne serait-ce qu'au départ, essayer de tenir le quotidien du campement. C'était déjà très fort en temps, en rencontre, en tension, en question.
Et en même temps, sans le savoir, peut-être que le film se préparait comme ça, en fait, dans le fait de le vivre comme ça avec eux. Enfin, je veux dire, sans que vous puissiez imaginer peut-être que ça allait le faire, mais...
Bien sûr que... nous, notre truc, c'est de faire des films, donc on n'a jamais lâché ça dans notre tête. Mais en tout cas, très concrètement, c'est-à-dire être cinéaste, c'est avoir une caméra à la main et filmer. Moi, en tout cas, ça me semblait impossible de le faire au même moment. Et notamment, c'est aussi des questions presque morales, mais c'est-à-dire de, je sais pas, quelqu'un avec son bébé qui est juste, ils avaient plus rien en fait, hein, parce qu'au moment où leur bidonville a été expulsé, ça s'est passé en même pas une heure, et c'était des gens qui vivaient depuis 6 ans dans cet endroit. Et en une demi-heure, les bulldozers ont tout rasé. Donc en fait, ils avaient des meubles, ils avaient de la hi-fi, ils avaient des fringues, des affaires,
ouais,
tout un tas de choses.
Ils s'étaient installés au mieux qu'ils pouvaient.
Voilà. En 6 ans, c'était devenu un vrai quartier, quoi. En fait, malgré que ce soit un bidonville, c'était vraiment un endroit avec des rues, des maisons. C'est ça qu'on a du mal à imaginer, parce que la plupart des bidonvilles en fait sont détruits très très rapidement. Aujourd'hui, mais cet endroit c'était une exception. C'était à l'époque, c'était le plus vieux bidonville de France. C'était le seul bidonville en France qui tenait depuis 6-7 ans. Et donc, c'est des gens qui, du jour au lendemain, se sont retrouvés avec un slip, un pull, et voilà, c'est tout. Et du coup, avec ces gens-là qu'on connaissait un peu, mais pas encore très bien. Tu fais quoi? Tu trouves de l'eau, tu leur donnes, puis tu trouves à manger, tu leur donnes, et puis ensuite tu dis quoi? Tu dis ah ouais, mais attends, par contre je vais sortir la caméra, et puis je vais filmer un peu, tu vois, puis tu pourrais me raconter un peu ta vie, et puis le mec il est là.
Alors, excuse-moi, là faut que j'aille écrire pendant 4 jours dans mon appart. C'est vrai que c'est compliqué là-dessus.
Ouais,
donc, c'est pas possible. Ouais.
Donc très vite on l'a résolu en se disant tant que c'est comme ça, on filme pas. C'est pas grave, je veux dire, effectivement, on aurait pu être les premiers ou les derniers à avoir envie de absolument documenter ça, parce que c'est des moments comme ça très, 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 très forts, très intenses, mais c'est pas ce qu'on a fait. Et encore quasiment un an après, il se trouve que parmi les maisons qu'on avait ouvert, il y a plusieurs squats qui tenaient plutôt bien. Des petits pavillons. Et parmi ces squats-là, il y avait un certain nombre de familles avec qui... en fait, c'est marrant, c'était un hasard, je pense, mais ça faisait partie des premières familles qu'on avait rencontrées au bidonville. Et on s'est suivis sur toute cette histoire pendant 2-3 ans. Et du coup, quand on a senti que les maisons tenaient et qu'il y avait un peu de perspective, et que aussi leur vie s'était un petit peu reposée, que... Ils arrivaient à gérer leur travail, leurs enfants, la vie quotidienne, qu'ils étaient un peu moins le couteau sous la gorge, quoi. Je pense que c'est même venu d'eux, à un moment donné, ils ont dit mais bon, quand même, vous faites des films, on s'est jamais vu avec une caméra, qu'est-ce que vous faites? Et moi, c'était un peu le moment aussi où on se disait que ça pouvait redevenir possible, quoi, avec Yann. Et du coup, on s'est dit comme ça, assez spontanément, allez, on pourrait essayer de remettre en scène ensemble ce qu'on a vécu depuis le bidonville, quoi.
Donc ce qui fait que à partir du moment où le bidonville se fait expulser et que toi et Yann vous mettez à les accompagner dans leur résistance et leur lutte. Ce qui fait que le scénario de départ a beaucoup changé à partir du moment où eux commencent à être installés et vous disent bah tiens, vous êtes cinéaste et que vous l'étiez plus. Le scénario là change quoi en un an et demi.
Ouais. Bah ouais, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout fait le film qu'on pensait faire, on n'a pas du tout vécu les choses qu'on pensait qu'on vivrait. Et après, on se fait prendre aussi par les choses, c'est-à-dire que je sais que pendant l'année et demie d'enquête plutôt historique sur les bidonvilles des années 60 qui ont donné lieu au journal, ouais. Bah à ce moment-là, je sais que on était tellement enfouis dans ces histoires, tellement proches de tout ça et des gens qu'on avait rencontrés, qu'à un moment donné, on s'était dit tiens, le film il va plutôt parler de ça en fait. Il va plutôt parler de l'histoire, de toute cette histoire de comment on est allé de la campagne au bidonville jusqu'aux grands ensembles, jusqu'aux banlieues d'aujourd'hui, avec un peu un écho de la présence, malgré tout, d'encore aujourd'hui de ces familles roumaines qui vivent en bidonville. Et en fait, bah tout ça, c'est une énorme histoire, mais tout ce qui nous a pris avec ces amis roumains a fini par prendre le pas, quoi. Parce que c'était du présent, du vif, quoi, et que c'était des amitiés réelles partagées avec le temps, et que aussi parmi les amis roumains, bah il y a des gens qui ont vraiment eu envie de jouer le jeu, quoi, et après c'est aussi lié aux conditions du cinéma, c'est-à-dire aussi de l'économie. Nozer, tu disais ça au tout début, Fab, parce que comme on a pris beaucoup de temps à en arriver là, presque plus de 3 ans. En parallèle, moi, il y avait quand même un truc qui me prenait beaucoup de temps, c'était faire les dossiers pour essayer de trouver de l'argent, faire le film. C'est un film qu'on voulait faire en grande partie en pellicule avec l'Abominable et en 16 mm, donc ça coûte de l'argent. On peut pas tourner des heures et des heures, il faut un peu réfléchir à ce qu'on veut faire. Et voilà, il se trouve que quand on s'est dit, bah tiens, on va remettre en scène, c'est plutôt devenu une fiction. Et grâce au temps qu'on avait autant passé en fait sur toute cette lutte, en parallèle, ça a laissé du temps pour qu'on trouve de l'argent. Et là aussi, c'est un autre biais pas prévisible qui fait que le film change de route, quoi, un peu. Et donc grâce à ces survivants, c'est une société, Karine Chiskovski et puis l'image d'après avec Damien Monnier qui s'occupait de la production. Et donc au bout d'un moment on avait vraiment réussi à trouver de l'argent, quoi. Et donc on a dit notamment aux amis roumains, bah on va remettre en scène, ok, donc faites-vous jouer, donc vous êtes acteur même si vous l'avez jamais fait, et donc bah on va payer chaque jour de tournage. Donc du coup chaque membre de l'équipe, technicien et chaque personne qui jouait était payée la même somme. On est tous payés pareil. Et ça a été à nouveau un truc qui a imbriqué le réel et le cinéma. C'est-à-dire que, ok, leur vie était plus tranquille, ils vivaient dans des squats, ils avaient un toit au-dessus de la tête, mais pour la plupart, ils avaient quand même des énormes problèmes de fric, et ils avaient peu de boulot, souvent des boulots au black, avec pas mal d'enfants, et voilà, et cette petite économie-là, je pense qu'il y avait quelque chose qui me semblait assez honnête, quoi. C'est pas du donnant-donnant, mais en tout cas, ça permettait que...
La mise en commun, quoi.
Voilà, que l'argent du film, il soit distribué d'une façon assez juste, et que, on est devenus amis, oui, on a vécu tout ça ensemble, oui, on a ouvert des maisons ensemble, oui, on en est arrivé là, mais c'est pas pour autant qu'on va faire ça n'importe comment, on travaille, on est payé, parce que c'est possible, sinon on aurait fait autrement. Et je dis ça parce que je sais que ça a quand même participé aussi à ce que le tournage a pu déployer, quoi. Je sais que s'il n'y avait pas eu cette économie-là, on aurait sans doute eu beaucoup, beaucoup de mal à faire certaines choses, parce que même avec cette économie-là, ils sont dans des vies tellement soumises à tout un tas d'improvisations et de complications et d'impératifs que tourner un film avec un minimum d'exigences, c'est pas toujours simple. Parce que le film qu'on a fait, finalement, c'est pas juste on a une petite caméra et puis on est là au quotidien et on filme. C'est vraiment en bonne partie de la mise en scène, même si là encore, il y a beaucoup de documentaires dedans. Et du coup, bah, ça déplace un peu aussi, si on doit revenir vu de loin, disons, ces thématiques-là. Parce que je crois qu'avec l'intimité qu'on a eue, qu'on a, et le fait de mettre en scène, quand je dis mis en scène, souvent c'est improvisé. Hein. On décide, tiens, la scène va parler de ça, on va la tourner à tel endroit, on va la filmer comme ça. Mais après, les amis, ils improvisent. Mais par exemple, je prends un exemple bête, il y a une scène qu'on a fait où ils sont dans une voiture et c'est le moment où le bidonville vient d'être expulsé et ils se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire. Où est-ce qu'ils vont aller? Quelles solutions ils ont? Est-ce qu'ils vont aller occuper le parc de la mairie ou pas? Où sont les autres? Qui a réussi à trouver un abri? Ça, on l'a mis en scène presque plus d'un an après le moment où c'est arrivé. Donc, si on l'avait fait sur le moment, si justement on avait sorti cette caméra au moment où ils étaient dans leur tente, dans la galère, qu'est-ce qu'on aurait eu comme séquence? Je sais pas, ils auraient peut-être regardé la caméra, ils auraient dit « Ah, tu sais, c'est dur, il faut nous aider. » Je sais pas, en fait, à l'époque, on se connaissait pas bien. Mais le fait que ce soit un an après, je pense qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un moment où on a du recul, où eux, ils ont du recul, et ils sont dans un moment de vie où ils peuvent en faire quelque chose. Ils peuvent porter une parole vis-à-vis de ça qui les amène ailleurs que juste moi je suis là, je suis pris là-dedans, j'ai aucun recul, je parle et toi tu filmes. On est ailleurs. Je sais pas ce qu'on invente ensemble, mais en tout cas il y a un espace qui se libère et il y a une autonomie de comment eux ils vivent dans le film, qu'est-ce qu'ils disent et voilà, dans les petites projections qu'on a commencé à faire de quelques extraits comme ça. Il y a eu des réactions assez chouettes de gens qui disent tiens c'est marrant, il y a beaucoup d'humour, il y a de l'autodérision en fait sur leur situation.
Oui, donc ça crée de l'espace en fait ouais. Dans ce qui se passe et en plus ce qui me paraît intéressant aussi c'est que vous êtes nourri aussi du travail précédent, c'est-à-dire que toute cette partie dont tu as expliqué le processus, notamment avec le livre, le journal, etc. Donc vous êtes-vous déjà empreint de tout ce travail-là d'historicité, de faire remonter l'époque et donc au moment où vous tournez, vous êtes aussi habité de cette histoire-là, ce qui change aussi les choses avec cet état de recul d'un an après. C'est aussi, j'imagine, nourrissant et vous ne l'auriez pas vécu peut-être de la même manière tout au début, peut-être, je sais pas.
Bah, c'est clair, il y a un truc qui était assez. Je sais qu'il pour moi était très troublant. Je sais plus à quel moment du campement on a eu cette discussion avec Yann, quand les familles étaient sous les tentes devant la mairie. Mais il y a un des éléments du journal qui est toute une enquête en fait sur les. Bah, je pense un peu les premiers militants en fait dans les années 50, 60, qui donc étaient le tout début du mouvement ATD Quart-Monde. Qui était une scission de l'appel de l'abbé Pierre, donc un mouvement qui était mené par Joseph Wrzesinski, et où en fait les militants de ce mouvement allaient s'installer dans les bidonvilles, vivaient avec les gens, parfois pendant 10 ans. C'était beaucoup des jeunes femmes qui rompaient finalement avec leur milieu et qui se mettaient là, quoi, et qui essayaient au quotidien, au jour le jour, de faire des choses. Et des gens très jeunes. Et en fait, c'était étonnant parce que dans les archives, on a retrouvé tout un tas de... Ils tenaient des journaux, des réunions, des notes. C'était très bien archivé à TD Quart-Monde. Beaucoup, beaucoup d'archives dans le journal viennent de là. Et on pouvait voir leurs pensées, en fait. C'est-à-dire comment ils vivaient ça, d'être pris là-dedans, d'être là, d'essayer de faire des choses, de voir que les pouvoirs publics étaient complètement sourds à leurs attentes, mais de se débrouiller quand même avec des bouts de ficelle, et d'être pris en tension comme ça avec des gens qui arrivaient d'ailleurs, qui n'étaient pas dans la même culture, qui n'étaient pas dans les mêmes réalités économiques qu'elles, qu'eux. Et au moment du campement, ouais, parmi les militants, disons, qui étaient là, il y a 3 ans, là, c'était aussi beaucoup des gens très jeunes, qui avaient des expériences politiques plus ou moins, mais pas forcément tant que ça non plus, nous non plus, et donc c'était vraiment un truc en train de se faire, quoi. Et je sais que plusieurs fois je repensais à ces traces qu'on avait retrouvées des années 60 en disant c'est fou, on est en train de vivre un truc un peu à une toute autre échelle, hein, un peu similaire, quoi. Et surtout, du coup, d'essayer d'inventer ensemble, de trouver ensemble des solutions pour sortir du bidonville. Qu'est-ce qu'on fait pour se loger? Ce qui était le but d'ATD Quart-Monde. Le but d'ATD Quart-Monde à l'époque, c'était de, voilà, qu'on rase des bidonvilles et que les gens accèdent à des logements normaux. Et finalement, ce qu'on a éprouvé avec le collectif, c'était la même question. Sauf que la grosse différence, pour faire un parallèle historique, c'est qu'à l'époque, bah, à force que notamment ATD Quart-Monde pousse les pouvoirs publics, les journalistes, fassent du lobbying, etc., l'État, à un moment donné, a réagi et au bout de 25 ans de bidonville, a dit, OK, par l'intermédiaire de la Sonacotra, on va faire un programme c'était autour des années 68, et on se donne 3-4 ans, on va raser tous les bidonvilles de France, on va mettre tout le monde dans des logements, en cité de transit ou HLM. Et il y a un écho historique, parce qu'en fait, ça fait à peu près 25 ans que les bidonvilles ont ressurgi en France, plutôt avec des gens venus d'Europe de l'Est, aujourd'hui, enfin ça fait 25 ans, et il se passe pas grand chose en fait. Alors c'est des bidonvilles beaucoup plus petits, mais il y en a beaucoup moins qu'à l'époque, donc justement à la limite ça pourrait être beaucoup plus simple à gérer pour l'État, mais le constat c'est qu'en gros, à part quelques tentatives du type village d'insertion par exemple qu'il y a pu y avoir dans certaines villes de France, qui aujourd'hui la plupart sont en train d'être démantelées, qui visaient un peu à accompagner l'insertion de certaines familles roumaines, roms, il y a quasiment rien qui se fait en fait, à part des politiques d'expulsion de plus en plus rapides qui déstructurent complètement la vie des gens parce que ils ont même pas le temps de se réinstaller quelque part, même dans une baraque en bois, qu'ils sont déjà refoutus à la rue. Et le parallélisme, je pense, qui opérera dans le film, c'est que à une époque, il y a eu toutes ces solutions là. Il y avait du logement social, il y avait voilà. Et qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on a tenté ensemble, c'est ces histoires de squat. Et il n'y a pas grand chose d'autre que de l'odeur d'organisation, en fait.
Tu nous as ramené, je crois, un petit bout de son.
Ouais.
Ça pourrait être chouette, peut-être, de le mettre maintenant. Tu nous dis un peu ce qui en ressort.
Comme je suis en montage, j'étais en train de monter des séquences cet après-midi, et comme je savais qu'on allait faire l'émission, je me suis dit que ça pouvait être ça qu'on allait écouter. Donc en deux mots, ce que j'ai raconté, c'est qu'effectivement le film est essentiellement mis en scène, mais il y a aussi des moments très documentaires. Notamment le groupe d'amis avec qui on a ouvert ces maisons et avec qui on a fait le film. À un moment donné, on leur a demandé devant la caméra de raconter leur vie. Alors c'est simple comme ça, mais c'est voilà, dis-moi comment c'était quand t'étais petit, c'était où, et puis raconte-moi depuis quand t'es petit jusqu'à maintenant, quoi. Ou jusqu'à voir comment tu te projettes dans les années à venir, etc. Et du coup, parmi ses amis, il y a Julian qui vit toujours dans une des maisons avec sa femme et sa fille. Et qui un jour nous a raconté son enfance en Roumanie et comment il s'est retrouvé en France. Et comme on est à la radio et que le film du coup est essentiellement en langue roumaine, il n'y a pas de sous-titres, il n'y a pas d'image, mais il se trouve que parmi l'équipe vraiment soudée et proche de toute cette histoire, toute cette aventure et du film, il y a Raluca Melinte qui est une traductrice très douée et qui nous a accompagnés sur tout le tournage pour faire de la traduction. Donc dans ce petit fragment, on va écouter l'histoire de Julian, mais dit par Raluca, avec un peu de musique.
Qui au final, à un moment, devient aussi, cette traductrice devient aussi personnage du film, mais ça on en parlera après.
Ouais. Il se trouve qu'effectivement, Raluca au début était juste là pour traduire les entretiens parce qu'on voulait que les gens parlent dans leur langue native et que petit à petit, par amitié, par solidarité et par envie commune, Raluca est devenu un des personnages du film. Et il se trouve que nous aussi, même moi et Yann, on est devenus aussi des personnages du film.
Yeah! tu sais, le village de mes grands-parents, avant, c'était des deux côtés de la rivière. Lorsque la rivière est devenue une frontière, moitié du village est resté en Roumanie et l'autre moitié de l'autre côté. Et je sais que mon grand-père avait des frères qu'il n'a plus jamais pu revoir. Je n'ai qu'un seul souvenir, c'est une photo que grand-père a ramenée après la guerre avec un de ses frères, mais c'était une photo en négatif comme on faisait avant. Donc je le voyais un peu roux, marron. J'allais chez grand-mère, on montait sur la colline et on regardait de l'autre côté où c'était l'Union soviétique. Après le collège, j'ai commencé à travailler avec les moutons. On les mettait ensemble et c'est là où je les amenais pour manger. Et à la fin, on donnait une quantité de lait à chaque personne qui nous donnait les moutons pour traire, pour faire le fromage. Je travaillais, j'avais un autre frère qui a fini son collège et qui était toujours un berger. Et puis il y avait des problèmes entre mon père et moi parce que tout ce que je gagnais en travaillant, je donnais l'argent à la maison. Je réfléchissais, je dis, si tout ce que je gagne, je le donne à mon père, je vais avoir un âge où je devrais me marier. Et je vais avoir besoin d'un argent, parce que tout ça, ça coûte. Donc je suis restée jusqu'à 18 ans, 18-19 ans, et ensuite j'ai quitté la maison. Donc en Roumanie, tu te rappelles, tu travailles pour rien. À l'époque, je gagnais 1,5 million par mois. C'était mon salaire. J'ai vu un bon ami et qu'est-ce que ce garçon me dit ? Tu veux pas aller en France pour travailler ? On peut aller ensemble. Voilà, en France c'est comme ci, comme ça, on peut couper le bois. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Pas grand-chose. Il y a de gros arbres. Il y a une équipe qui les fait tomber. Ensuite, il y a une autre équipe qui nettoie les arbres et on les coupe pour des mètres stères. C'est à peu près des morceaux d'un mètre. Il m'a amené quelque part, je ne sais pas où c'était, je me suis réveillée quand il n'y avait que des forêts tout partout. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Il n'y avait pas de village, il n'y avait pas de ville. C'était sauvage, sauvage comme tout. Donc je me suis dit, bien, bon, bah, s'il y a de l'argent qui en sort, pourquoi pas? Il s'agissait de 300, 400 euros par mois. 600, ben, c'est beaucoup d'argent par rapport à ce que je gagne en Roumanie. Si Dieu m'aide pour y travailler quelques années, je peux faire un bon avenir. Alors j'ai dit, ça va. J'ai travaillé là-bas, j'ai travaillé dans la forêt, comme je disais. Et à un moment donné, j'ai commencé à réclamer l'argent à un patron. Le patron était turc. Et je lui disais, mais le salaire. Parce qu'à chaque fois qu'on lui demandait le salaire, il disait, mais pourquoi tu as besoin d'argent ici, au fin fond de la forêt? Si tu m'embête encore, je vais te tuer et ici, au fin fond de la forêt, personne ne le saura. J'ai dit, bon, je ne vais plus y rester. Je n'avais pas d'autre choix que de m'enfuir. C'est pour ça que j'ai décidé, j'ai caché mon argent. J'ai fait de l'argent ce que j'estimais pour avoir pour le billet de train et pour l'argent de poche parce que je ne connaissais pas les prix. J'ai couru, j'ai traversé la forêt. Et c'est comme si je vois, j'ai vu, il y avait la lisière de la forêt et une ligne de chemin de fer. Alors je me suis dit, quelque part, il doit y avoir une gare. Je disais Paris, c'est tout ce que je savais dire. On m'a dit, par là. Je suis montée dans le train, j'ai pris une amende parce que je ne savais pas comment faire pour acheter les billets. J'ai dit, c'est pas grave, je suis arrivée à Paris. J'ai descendu de ce train-là. Je voyais des gens qui mendiaient par terre. Et l'un d'entre eux, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils parlent comme langue? Ça ressemble un peu à du roumain. Mais en fait, c'était du rom. Je l'ai demandé et ensuite, il s'est mis à parler roumain. Alors, comme je n'avais pas d'autres amis, j'ai dit, d'où tu viens? J'ai dit, d'Arad. Il m'a dit, je connais des garçons d'Arad. Ils sont sur mon plat. C'est quoi ça, le plat? J'ai dit. Et après, il m'a dit qu'il y a des gens d'Arad sur un autre plat, dans une zone qui s'appelait Argenteuil. Et voilà comment je suis arrivée pour rester dans un bidonville, comme on dit, sur des plats dans la zone parisienne. quand je suis arrivée ici, je savais dire que bonjour, bonsoir, ça va, parce que j'entendais qu'il disait ça va, donc je m'en fous, et des petites paroles comme ça, que j'attrapais en courant, mais je connaissais pas du tout le français.
Retour à Radio Galère, on vient d'écouter un extrait d'une partie assez documentaire du film de ton film, Jérémy Gravaïa, voilà, ça nous amène à peut-être à réévoquer la question qu'on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire de la fiction, de la mise en scène, et en quoi, à un moment donné dans le film, elle s'impose en fait dans le processus du film. Alors peut-être que tu peux en dire un peu plus là-dessus.
Bah ouais, ce que je disais tout à l'heure, c'était que effectivement le fait de faire les choses après coup, forcément on perd un certain cinéma, mais peut-être qu'on en regagne un autre. C'est un pari. Après, c'est jamais gagné. Mais voilà, il y avait cette question donc que j'évoquais du fait de voilà, comment est-ce qu'on peut filmer des gens qui n'ont plus rien. Moi, ça me paraît pas possible, et à ce moment-là je pense qu'il y a autre chose à faire. Et puis il y a une autre question qui est que le film a vraiment changé de route en fait à partir du moment où on a commencé à ouvrir ces maisons, parce que bien sûr faut raconter toute cette histoire de la banlieue, faut raconter toute cette histoire des années 60, faut raconter qu'est-ce que c'est vivre en bidonville. Il y a encore beaucoup de gens qui vivent en bidonville et ça n'arrêtera pas, et malheureusement, mais peut-être que ce qui est intéressant quand même, c'est de raconter comment on en sort, est-ce que c'est possible, à quel prix. Et bon, si notamment ça passe par ouvrir des lieux, bah, y a un truc assez simple, c'est qu'en fait, filmer sur le vif ce genre d'ouverture, c'est assez complexe. Chaque personne qui est présente à ce moment-là est utile, est comptée. Si on est trop, ça sert à rien, c'est dangereux. Si on n'est pas assez, c'est dangereux. Si on n'est pas assez concentré, c'est dangereux. Si on est en train de filmer, ça nous met ailleurs que là où l'attention doit être. Et en même temps, surtout, banal. Basiquement, en fait, c'est un moment où le cinéma devient une... Enfin, si on est pris avec une caméra dans laquelle il y a des images d'une ouverture, au moment où on est dans un lieu qu'on espère pouvoir occuper. Voilà, tout ça, c'est des risques, c'est des preuves, c'est des... Enfin, l'image devient une preuve policière, quoi, quelque part. Donc, remettre ça en scène tranquillement un an après, en mettant un peu de flou sur qui a fait quoi, sur les identités des gens, sur la réalité ou pas, d'ailleurs, de ce qui se passe, c'est là où la fiction devient intéressante. C'est-à-dire que... Enfin, intéressante, ou peut-être même nécessaire. C'est que quand on veut raconter des choses qui malheureusement se déroulent au seuil de la légalité, aux yeux de certains, mettre en scène, ça permet de raconter un peu à côté de la vérité, de la réalité. Et c'est à la fois une forme de protection, et c'est une forme qui, je pense, du coup, permet de se réapproprier autrement ce qu'on a à raconter. Et pareil, pour le dire assez basiquement, le fait que on ait été tous ensemble sur ces moments-là et qu'on n'ait pas filmé, fait que le jour où on les filme, y a des séquences où on a filmé juste nos amis roumains. Alors moi, Yann et d'autres, on était à la technique et puis eux, on discutait, on disait tiens, on va parler de quoi, on fait ça, ok, un plan ici, on le faisait. Mais en fait, nous, du coup, on était à ce moment-là, on était des techniciens. On était hors du champ du film. Et eux, ils disaient mais vous étiez avec nous à ce moment-là. Enfin, on n'était pas juste nous à faire les trucs et puis vous, je sais pas où. Enfin, on faisait ça ensemble. Et donc, c'est un des moments où on s'est dit tiens, peut-être on peut tenter de se mettre en scène aussi nous. Laisser tomber un peu nos outils de cinéaste au moment où on fait le film, encore une fois. Alors bon, ça va, on a un ami qui fait le cadre, un ami qui fait le son, on peut lâcher les outils. Et se mettre en scène avec eux dans des moments qu'on a vécu ensemble. Mais tout ça, je pense... alors il faut pas... C'est un film où la matière est assez impure, assez mélangée. Il y a de la fiction, mais il n'y a pas que de la fiction. Il y a de la pellicule, il y a de la vidéo. Il y a des moments très bavards, il y a des moments très silencieux, il y a de tout. Mais là, je suis en montage, donc c'est difficile de se projeter, mais je sais que ce que j'aimerais le plus, c'est que le film arrive à témoigner dans sa durée, c'est-à-dire quand le spectateur le regarde, quoi. Qu'en fait, c'est pas évident. C'est pas transparent, en fait, les images. Et c'est pas transparent comment on les fait. Que si on fait certaines choses, on fait pas des images. Et si on fait des images, on fait des images. On fait pas d'autres choses. Et que... Je pense que c'est une réalité, c'est un questionnement, c'est quelque chose de politique. C'est-à-dire... quand on va... à la télévision, de moins en moins, mais quand on va, par exemple, en festival de documentaire, parce que ces films-là, c'est là qu'ils passent, on voit des tonnes et des tonnes et des tonnes de films documentaires qui nous parlent de réalités politiques, qui nous documentent des réalités politiques. Mais j'ai l'impression qu'il y a peu de films. Je dis pas que celui qu'on va faire y arrivera, mais c'est un souhait, j'aimerais travailler ça. Il y a peu de films qui, au sein du processus, arrivent à montrer un peu cette crise-là. C'est-à-dire faire un film politique sur des réalités politiques, c'est pas forcément avoir un geste politique ou faire de la politique ou agir, c'est autre chose. C'est très précieux, c'est très nécessaire, mais c'est autre chose. Et du coup, comment est-ce qu'un film peut un peu mettre en crise, mettre en relief cette réalité-là, et pas juste qu'elle passe pour quelque chose de transparent, où nous on est spectateurs, on est dans la salle, on regarde un film sur une réalité très, très forte, très complexe, très bruyante, très chaotique, très douloureuse, très etc., très poignante, très intéressante, mais on traverse le réel comme un spectateur. Et à aucun moment l'image nous met un peu en crise, en fait, sur cette, sur cette question-là de témoigner, agir, regarder. C'est pas la même chose. Au cœur de tout ça, il y a la politique, mais il y a des gestes politiques, il y a des pensées politiques, mais c'est des champs différents. Et j'aimerais bien que plus de films arrivent à nous mettre un peu face à ce dilemme-là, quoi.
Ça pose la question subtile, du coup, pour revenir à la mise en scène. Il y a une idée de... vous dites jouer, enfin tu dis jouer, etc. Bon, on est d'accord que vous êtes, vous rejouez en fait des séquences des scènes qui se sont, qui se sont déroulées. Donc c'est une sorte de reconstitution finalement à partir de séquences, enfin de scènes déjà vécues. Mais comment tu les construis en fait à la mise en scène, qu'est-ce que tu décides sur quel angle tu décides est-ce que c'est juste une reconstitution ou qu'est-ce que tu y apportes qui fait qu'à un moment donné ça va prendre telle ou telle couleur et ça va se passer comme ça, ou alors c'est très improvisé comme tu disais à des moments au moment où ça se passe et ça se prépare, ça, enfin, je sais pas.
Explique. En fait cette façon de faire a notamment déterminé des formes, c'est-à-dire que beaucoup de ces séquences sont tournées en plan séquence, c'est-à-dire que Le but, c'est que le cinéma n'envahisse pas ce qui est en train de se dérouler, l'improvisation, et la caméra est posée, la plupart du temps sur pied, et les choses se déroulent, quoi. Et du coup, en fait, parmi la masse de choses qu'on a vécues ensemble, et la masse de choses qu'il y aurait eu à évoquer, à montrer, on a choisi quelques situations qui nous semblaient un peu... clé pour comprendre un déroulement qui en fait est très linéaire et très simple, hein, c'est-à-dire on est dans un bidonville et puis on est expulsé et puis on campe devant une mairie et puis on cherche un endroit et puis on investit une maison et puis ensuite on vit dans une maison et puis ensuite on se demande combien de temps on va y rester. C'est à peu près ce que raconte le film, mais du coup il le raconte par un certain nombre de blocs avec un peu le pari que bah, entre il y a des ellipses, y a, tout n'est pas là, et c'est pas pour autant du tout du théâtre, mais effectivement c'est plutôt des cadres larges où les choses ont l'espace de se dérouler et où la parole a le temps et l'espace de s'improviser, quoi. Et après il y avait jamais vraiment de scénario. Il y avait des notes en permanence réécrites jusqu'à une heure avant, la veille, etc. Et puis des petits moments où on discutait avant de tourner sur le contenu. En fait, l'image voulait que ça reste relativement une affaire simple. On peut faire des très belles choses avec des choses très simples, quoi. C'est pas très alambiqué la façon dont on a filmé. Mais par contre, je voulais que vraiment la place soit un peu entière pour la parole. Et du coup, bah, avant de tourner, on se disait, tiens, alors cette scène-là, on va remettre en scène, je sais pas, le moment où on va ouvrir la maison. Alors, à l'époque, on parlait de quoi? Ça se passait comment? Dans quel ordre? Comme ci, comme ça? Bah tiens, on pourrait commencer là-dessus. Et puis, voilà. Et donc, on avait tous un espèce de canevas en tête, et après, on improvisait. Et il se trouve que bah, les amis avec qui on a filmé, Julian, Ketsa, Simona, Bané et d'autres, se sont révélés en fait des très beaux acteurs, quoi. C'était pas du tout gagné d'avance, on n'a jamais fait d'essai avant de commencer à faire les premières scènes. Et
il n'y a pas eu de casting.
Voilà, enfin, le casting s'est fait de lui-même en fait, et ça n'aurait pas été vraiment possible qu'on tourne avec d'autres gens, je pense qu'eux. Donc bah, c'était eux, et puis ils allaient jouer comme ils allaient jouer, et puis voilà, on allait y aller, quoi. Et je pense que même du coup, il y a des scènes parfois un peu... fragile, un peu où on sent le jeu, par exemple. Mais comme ça, c'est pas une mise en abîme théorique. Le but du film est pas de dire, ah, vous voyez, on est en train de rejouer un truc, nanana, etc. Mais par contre, ça se sent. Et puis par moments, ça décolle, on l'oublie complètement, et puis on le ressent à nouveau. Parce que, bah oui, parfois il y a des regards caméra, parce qu'ils jouent, donc que des fois ils s'amusent avec ça, ou que ça libère des choses, ou que il y a des maladresses, il y a des. Et du coup. Ça aussi, je pense que c'est un truc que je trouve chouette dans le cinéma, quoi. C'est de, on dit toujours, voilà, il n'y a pas de documentaire, il n'y a pas de fiction. Et effectivement, c'est des moments où, dans des plans séquences, on sent ça, c'est-à-dire on vrille un peu de l'un à l'autre. Et
puis on arrive à se laisser porter, c'est-à-dire à faire comme si, et puis en même temps, on sait que
mais
c'est...
On est conscient que, mais on est conscient que, quand même, non.
Donc, ouais, ok.
Et je trouve que c'est bien de... Je sais pas quoi, de pas. Que ce soit en documentaire, quand je disais, voilà, on est dans une situation de lutte, et puis on est là, on est spectateur, on regarde le film, on traverse tout ça, on comprend tout bien, on est bien là, la caméra est entre guillemets transparente, enfin. Et l'inverse, où. Pareil, la fiction, c'est toujours la même question, c'est l'opposé exact, mais c'est toujours cette transparence de la caméra, c'est-à-dire, du premier plan d'un film de fiction, on est dans le contrat, qu'on va croire à ce qui se passe comme si c'était en train de se passer. Et puis
là, bah, ça bouscule.
Et bah là, ça, je sais pas si ça bouscule, mais en tout cas, ça.
C'est pas si évident, quoi.
Ça navigue, quoi. Ça flotte, ça. Et c'est jamais clair. Et en même temps, je pense qu'on s'en fout. Enfin, le but, c'est qu'on vive les choses, qu'on les revive. Et surtout que tout ça, surtout, que ça soit pas du dispositif pour du dispositif, mais que ce soit quelque chose qui permette à une présence, à une réalité, à des paroles d'advenir. Et ça, je suis sûr que parce qu'on a passé tout ce temps ensemble, parce qu'on a traversé tout ça, on devient capable, un peu différemment, d'en témoigner. Et je crois que voilà, par rapport à certaines réalités, que ce soit l'image qu'on peut avoir des Roms de loin, l'image qu'on peut avoir des bidonvilles, l'image qu'on peut avoir de squatteurs, etc. Le film, je pense, met tout de suite un peu à mal certaines de ces images-là et nous plonge tout de suite dans, je crois notamment dans des formes d'empathie et de sympathie et de complexité autre. Où très vite il s'agit plus de savoir, ok, c'est des Roumains, c'est des Roms. En fait, c'est des gens qui n'ont, voilà, qui ont plus de logement et qui cherchent à se loger. Et il y a des formes d'organisation qui se déroulent avec des gens qui ne sont pas comme eux. Et il y a un truc qui se partage. Et le film essaye de mettre ça au travail et de témoigner de ça.
Et tu parlais justement pour pouvoir laisser advenir toutes ces choses, la parole, les gestes, le côté impulsif. Tu parlais de la question de faire des choix de mettre des longs plans séquences. Ça te vient d'où, cette notion de long plan séquence? Même si tu avais ça avant, tu as toujours eu ça dans ton cinéma, on va dire, documentaire que tu as fait avant, la question des longs plans séquences. Mais là, vu qu'on se met à un autre endroit, tu gardes ce geste-là sur la question de la mise en scène, la remise en scène. Et...
Après, voilà, là, c'était vraiment lié à ces histoires-là. C'est-à-dire que je pense que, notamment, si la plupart des copains roumains ont été très, très bluffants, quoi, dans ces scènes de mise en scène, c'est que, notamment, on a fait vraiment du cinéma, et même à des moments, eux-mêmes, ça les bluffait de voir la grosse caméra 16, le son, etc. Ils disaient, ah tiens, ça bricole pas, c'est du vrai cinéma, on entend la pellicule qui tourne, il y avait vraiment des formes de cérémonial assez, assez belles. Mais en même temps, je voulais pas qu'on... C'est très simple et très bête, quoi. Mais par exemple, surdécouper les choses, on n'a pas la même parole, quoi. Si on fait un gros plan, et puis un plan moyen, et puis un plan large pour une même scène, alors qu'on l'a fait en un seul plan, un peu de loin, on laisse pas du tout le même espace à ce qui peut se passer en eux, de comment leur parole va se déployer, quoi. Et pour des plans séquences qui, je sais pas, dans le film, on gardera peut-être des plans, alors ça reste long dans un film, mais de 3 ou 4 minutes, il y a des impros d'une demi-heure ou de 3 quarts d'heure. Il y a souvent pas de deuxième prise, c'est qu'une prise, généralement. Mais voilà, on se fait confiance qu'on se lance dans la durée et on en gardera un bout, quoi. Mais après, toute cette... c'est quelque chose qui s'est fait empiriquement et suite à beaucoup de hasard. Après, là où il n'y a pas de hasard non plus, c'est que tout ça vient quand même aussi d'un cinéaste qui pour moi est vraiment un des plus importants actuellement, enfin depuis déjà pas mal d'années maintenant, qui s'appelle Pedro Costa et qui en fait a commencé par faire des films dans un champ traditionnel, disons en équipe, avec beaucoup de monde, etc. au Portugal. Et puis notamment, il a fait un film au Cap-Vert. Et à la fin de ce tournage, qu'il a très mal vécu, les habitants du village lui ont donné des lettres en lui disant « Mais il faudra que tu ramènes ces lettres à des gens de notre famille qui sont dans une espèce de petit bidonville près de Lisbonne. »
C'est important de dire aussi pourquoi il l'a très mal vécu, mais en tout cas moi ce que je me souviens, parce que je connais un peu Pedro Costa, c'est qu'il disait qu'il l'avait mal vécu, c'est qu'à un moment il était obligé de venir avec sa grosse industrie, ses grosses lumières, tout ça, alors que les gens du village, certains se levaient à 5h du matin, que ça, ouais, ça respectait pas, il y avait quelque chose qui est d'un point de vue éthique et politique.
Ouais, c'est un peu finalement ce qu'on... Je sais pas ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait d'être au campement et de pas se sentir capable de filmer, ou que c'est pas le moment de filmer, et que moi, ouais, c'est ce qu'il disait lui, c'est qu'à un moment donné le cinéma envahit le réel, en fait, et ça c'est quand même une vraie question, quoi. Et que du coup lui, à partir de ce moment là il a ramené ses lettres à ces gens qui vivaient à Fontainhas, qui était un quartier d'autoconstruction plus que de bidonville. Et à partir de là, c'est un endroit qu'il a plus quitté pendant des années et des années et des années. Et il a forgé des, des relations, des amitiés avec certaines personnes. Et de là, on découlait 1, 2, 3, 4 films où voilà, y a vraiment cet équilibre-là entre documentaire, mise en scène, la question de la durée, des films qui témoignent d'une réalité sociale très forte, mais en même temps qui ont une plastique folle, et où on ne se pose pas du tout la question de la légitimité ou de la problématique que ça aurait. Et voilà, mais c'est quelqu'un qui est très, je sais pas, important pour moi et qui...
Et sur lequel...
Et qui mérite d'être vu plus, quoi.
Qu'est-ce qui te touche le plus dans son cinéma, du coup? Parce que tu parles de plastique, de lien avec l'histoire, avec de la fiction, quand le cinéma prend trop de place ou pas, etc. C'est sur quels aspects, hein, c'est ce mélange de tout ça?
Justement, je pense que c'est ce syncrétisme, quoi. C'est la façon dont il a inventé son propre cinéma et son propre équilibre à force de temps. Et une forme de justesse qui appartient qu'à... Bon, pas qu'à ce cinéma-là, il y a plein d'autres cinéastes qui ont tenté des choses comme ça, mais aujourd'hui, dans ces moyens-là, dans cette économie-là, pour parler de ces réalités-là, ils sont quand même assez peu nombreux, finalement. C'est des choses qu'on voit beaucoup en documentaire pur et dur, disons, mais voilà, par exemple, son dernier film, Horse Money, qui a jamais été encore diffusé en France, alors qu'il est... Il est passé il y a déjà 3 ans à Locarno, il a eu le Grand Prix. Ça va dans des zones de fiction totale, quoi. C'est quasiment un film fantastique. Et pour autant, c'est une continuité absolue avec ce qu'il a fait avant. C'est les mêmes personnes, c'est la même histoire, c'est les mêmes obsessions qui se creusent. Et le cinéma va de plus en plus loin, quoi. Et voilà. Et du coup, bah, on peut faire une petite pause avec un petit morceau que j'ai amené du coup en lien avec tout ça, qui est un morceau très connu au Cap-Vert, et qui est un morceau du groupe Oshtubaloesh, qui est un groupe emblématique de l'époque de la libération du Cap-Vert. Et c'est une chanson sur Amilcar Cabral, et dans En avant jeunesse de Pedro Costa, il y a une très très belle scène où Ventura et un ami à lui, dans une petite baraque, après une journée de boulot, écoute le vinyle, écoute cette chanson-là. Et l'ami de Ventura gratte un peu obsessionnellement un stylo ou je sais plus quoi sur la table et fait sauter le vinyle en permanence, donc le morceau n'arrête jamais. Et c'est un morceau qui parle de révolution.
suya sin libertad, sin curiso el camino a ver la felicidad. Grita, viva cabra, boca, combate en divino cerro. Grita, viva cabra, boca, combate en divino cerro.
Retour, je ne sais pas si tu... Oui, on m'entend. Voilà, retour donc dans Quête de cinéma avec Jérémy Gravaya sur la préparation de son film Atlas, qui est en ce moment... Donc Jérémy, t'es à Marseille, comme tu le disais au début de cette émission, en résidence au Polygone étoilé, et en plein Belzins. Et donc peut-être qu'on peut... On peut discuter ensemble de ce qui se mijote avec toute cette matière, donc tous ces ingrédients. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de différentes matières. Et au-delà de la fiction, du documentaire, différents supports, je te laisse évoquer ça un peu.
Ouais, bah du coup, ce qui est compliqué là maintenant, du coup, c'est effectivement de... Après toute cette aventure-là, où finalement, même le tournage lui-même est resté très, très, très dans la vie, quoi. C'est-à-dire la bascule de tout ce qui s'est passé avec les amis roumains, les maisons, etc. Et le tournage, elle s'est faite finalement assez. De façon assez continue. Il n'y a pas eu de rupture. Même si c'est vrai qu'à un moment donné, on est rentré en tournage, quoi. Et mais en même temps, le réel était toujours là, parce que, bah, par exemple, bah, les lieux où on tournait, c'était les maisons. Que entre-temps, bah, certaines des maisons ont été expulsées, que d'autres ont tenu. Que, je sais pas, ça nous est arrivé certains jours de... Bah de à nouveau annuler un tournage parce qu'il fallait aller filer un coup de main, parce qu'une maison était expulsée, parce qu'il fallait en réouvrir une autre. Et il y avait aussi du coup cette tentation de ne jamais finir le tournage, parce que cette histoire-là, elle est un peu sans fin. Et que par exemple, je sais qu'un des seuls trucs que j'avais écrit, c'était un peu la fin, qui était une fin pas très joyeuse, parce qu'on savait qu'un jour ou l'autre, les maisons allaient être expulsées, et que de toute façon, elles vont l'être. Mais ce qui était drôle, c'est qu'en fait, au moment où on devait tourner ces scènes, les copains, je pense, en avaient un peu marre. Et surtout, ils étaient repris par leur vie, la nécessité de bosser. Ils avaient retrouvé, pour certains, du boulot, bah, mieux payé que ce que nous, on pouvait faire avec le tournage. Donc... Il y a des choses qu'on n'a pas pu tourner. Et donc on a remis le tournage en pause. Il nous manquait que cette fin. Et en fait, ce qui était assez beau, c'est que le temps est passé, et que entre-temps, il y a eu des procès. Chaque maison a été en procès. Et que de façon très surprenante et imprévisible, on a... Pour les deux maisons des personnages principaux et des gens qu'on connaît le mieux, on a gagné le procès. Et que du coup, l'expulsion est pour l'instant complètement retardée, et qu'ils vont peut-être pouvoir rester encore un an de plus au calme. Donc finalement, on a tourné une fin plutôt heureuse, ouverte. Où à nouveau, c'est le printemps, mais c'est un printemps heureux. Parce que souvent, pour des lieux comme ça, le printemps, c'est pas toujours heureux, parce que c'est la fin de la trêve hivernale, et c'est le moment où il fait beau, mais on va se retrouver à la rue, quoi. Et donc voilà, tout ça n'a jamais vraiment cessé. Donc c'est vrai que là, il y a un moment un peu étrange de rebrasser tout ça. Et où je crois que du coup, c'était nécessaire de quitter la Seine-Saint-Denis et d'aller monter un peu loin. Pour pour être capable de revoir tout ça et d'y réfléchir et de prendre du recul et de travailler la matière. Ne serait-ce que parce que là je suis vraiment au début du montage et je sais qu'il y a plein de moments où je monte où la première question que j'ai en tête c'est tiens mais ça, Ketsa par exemple qui est dans pas mal de scènes, qu'est-ce qu'il en penserait ? Et tiens ça, Julian, cette scène-là avec cette scène-là. Parce que voilà, les raccords ça fabrique du sens, ça fait dire autre chose et à des moments on s'interroge quoi, sur ce qu'on est en train de manipuler quoi, avec ce qu'on a fait ensemble.
Et comment tu tranches alors dans ces moments-là où tu te dis bah tiens, qu'est-ce que penserait un tel ou une telle ?
Bah justement comme déjà il y a une part de fiction au moment du tournage. Là, je sais que c'est un moment où il faut un peu se libérer de tout ça, parce que le but, c'est quand même de... Je sais pas quel adjectif l'employer, mais de raconter les choses d'une façon belle et forte, quoi, si possible. Et cinématographiquement. Donc ça veut dire que c'est pas que des histoires politiques, ou des histoires didactiques, ou des histoires de compréhension des situations, ou des histoires de paroles. C'est aussi... des émotions, des sensations, des choses plastiques. Et voilà, et ça je sais que j'ai envie de suivre ce que j'aime à ce niveau-là, même si je sais très bien, et je trouve ça même plaisant maintenant, que les copains vont sûrement halluciner d'un certain nombre de choses dans le film, parce que c'est pas le cinéma qu'ils connaissent. Mais j'ai assez confiance que si ça porte les choses avec force et avec un peu de justesse, ça marchera. Et que la question, c'est pas tellement non plus que la question de la vérité, quoi. C'est d'arriver à faire un film qui arrive à porter avec tout ça, esthétiquement et pas que, des questions qui sont importantes. Et ces questions-là, elles peuvent être véhiculées sans cesse par du réel, par de la fiction, par de l'imaginaire. Et t'as pas sensible.
T'as pas de doute qu'il puisse s'y retrouver en tous les cas, c'est ça que tu veux dire. Même si ça déplace.
Si, bien sûr. Je sais qu'il y a des choses où je pense qu'ils s'y retrouveront pas. Mais ce que je pense qui va être intéressant, c'est que par ailleurs, ça sera à la toute fin. Mais ça sera le moment où ils vont me découvrir, nous découvrir autrement. Parce que, bon, on n'a pas eu des discussions de cinéma et de cinéphile pendant des heures ensemble. On a parlé de beaucoup d'autres choses. Et il n'y a pas de meilleur moyen et d'autres moyens qui voient une des choses qui nous habite le plus, qui est le cinéma, qui est notamment aussi le cinéma en pellicule. C'est une chose de voir une caméra 16 au tournage. C'est une autre chose aujourd'hui, à notre époque, de voir des images en 16, de voir le grain, de voir la matière. Et voilà, de on se redécouvrir dans cette réalité-là, qui est une réalité du film et qui est complètement autre. Et en tout cas, je sais que ça sera sans doute fort, mais est-ce que ça leur parlera de bout en bout ? Je suppose que non, parce que le film emprunte plein de chemins différents, et là, on a beaucoup parlé de ce qui a vraiment été travaillé avec eux. Mais il y a des scènes qui sont basées sur un travail d'archive, il y a des scènes qui vont évoquer quand même l'histoire de la banlieue des années 60. C'est des histoires entremêlées. Il y a tout un rapport au paysage aussi. On a beaucoup, beaucoup tourné des paysages en 16.
C'est aussi ce lien à l'histoire, du coup, les raisons du 16, enfin, pas que, mais est-ce que y a... Ça se lie à ça aussi, quoi, parce que...
Ben, oui et non, c'est-à-dire, pour le coup...
Parce qu'on peut imaginer avant... que les projections ne sont pas forcément en 16...
Non, ça, au contraire, j'aimerais que ce soit l'inverse, c'est-à-dire que j'ai pas mal tourné en pellicule avant, et notamment en noir et blanc, parce que techniquement, c'est plus simple à développer, etc. Et là, je sais que vraiment, on a voulu faire une image en 16... belle et en couleur, et qu'on sente vraiment le présent là-dedans. Et j'ai pas du tout envie que ce soit un film qui travaille la nostalgie à ce niveau-là, parce que moi et plein d'autres gens, on travaille notamment à l'Abominable, mais ailleurs, à faire des films aujourd'hui en pellicule, et qu'on espère bien que c'est quelque chose qui va continuer.
Ben oui, on espère. Et juste une dernière question, parce qu'on arrive à la fin. Quand tu fais des films, qu'est-ce que tu... Je ne sais pas comment la formule, mais par exemple, Tanner, Alain Tanner, un cinéaste suisse, il répondait à cette question. Il disait, ben, moi, j'espère que mes films puissent faire que les gens... On se déplace un peu. On regarde les choses d'un autre angle ou d'une autre façon. Et toi, quand tu fais des films, c'est quoi tes espoirs sur comment ils peuvent... Qu'est-ce qu'ils peuvent construire?
Bon, je pourrais dire à peu près comme lui. Et donc, pour clôturer, on va écouter un morceau de Frati Petreus, qui est un groupe roumain des Maramures. Et c'était les mêmes musiciens qui ont fait les deux premiers petits morceaux qui accompagnaient le témoignage de Julian tout à l'heure.
Legato de umbra de nalto tri uri uri Colegi mi-au luat berbeci tri. M-au lovit cu pari, vino mamă tatu, oile furatu, tri.
C'était Enquête d'un cinéma avec Jérémy Gravaya, Fabrice Copin. On vous retrouve le premier lundi du mois d'août, car c'est tous les deux mois, les premiers lundis. Bonne soirée et bel été à vous.